Émission hors thème dans cette fabrique de l'histoire de ce jeudi, ce matin, les 40 ans du magazine L'Histoire. Pour l'anniversaire du magazine L'Histoire qui publie ce mois-ci un gros numéro titré 40 ans de controverse, numéro anniversaire 1978-2018 que vous pouvez trouver en kiosque, nous allons ce matin remonter le temps et nous arrêter sur le numéro 1 paru en mai 1978. Au sommaire de ce numéro 1, on trouvait les noms de Georges Duby, de Nicole Belmont, de René Raymond, de Philippe Ariès, de Philippe Joutard ou de Jean-Noël Jeannet et de bien d'autres, avec pour rédacteur en chef Michel Vinocq qui sera à nos côtés aujourd'hui. Il est notre invité en compagnie de Valérie Hanin, directrice de la rédaction de l'Histoire aujourd'hui, de Yann Potin et de Patrick Rambourg. Tous les quatre vont commenter ce numéro 1 grâce aux lectures qui seront accomplies pour nous par Sophie Doll en direct ce matin.
À nos lecteurs. Il fut un temps où les historiens n'écrivaient que pour leurs confrères et leurs élèves, où les non-spécialistes n'avaient accès qu'à une histoire anecdotique ou édifiante. Depuis une dizaine d'années pourtant, une évolution se fait jour. À l'effort de certains chercheurs pour s'adresser à des lecteurs nombreux, correspond l'intérêt d'un large public pour une histoire reçue en direct de ceux qui la font. À cette évolution, marquée par le succès de quelques grands livres, l'Histoire veut contribuer en apportant ce que seule une revue peut donner, un moyen d'information permanent sur tout le champ de la recherche historique. Ce que vous trouverez dans l'Histoire, c'est donc une histoire sans frontières. Du paléolithique au monde contemporain, de l'hexagone aux antipodes, nos sommaires feront place aux époques et aux sociétés les plus diverses. C'est aussi une histoire ouverte. Les différentes écoles historiques y auront droit à la parole. Les auteurs étrangers y seront largement accueillis. Ce sont là de grandes ambitions. Nous en avons cependant une autre encore, celle de montrer que le vrai savoir se refuse à ennuyer et qu'il n'est pas de bonne information si elle n'offre aussi un plaisir à l'œil et à l'esprit du lecteur. Dans son projet rédactionnel comme dans sa présentation, l'Histoire a été conçue pour vous donner ce plaisir.
Voilà donc pour ce premier texte, qui était une sorte de manifeste tiré de ce numéro 1 de l'Histoire, paru en mai 1978. Bonjour Valérie Hanin.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Patrick Rambourg.
Bonjour.
Bonjour Yann Potin.
Bonjour.
Bonjour Michel Vinocq.
Bonjour.
Je parie que c'est vous qui l'avez écrit ce texte, Michel Vinocq.
On ne peut rien vous cacher.
Il est pourtant signé L'Histoire en l'occurrence. Oh bah. Vous étiez l'incarnation ce jour-là de l'Histoire.
Voilà.
il y a dans ce texte, à nos lecteurs, donc pour présenter cette nouvelle revue, ce nouveau magazine, tout ce qui compose la façon dont on veut dire ce que l'on veut faire, une histoire sans frontières, une histoire ouverte et également une histoire qui s'ouvre aux auteurs étrangers dans un contexte que vous mentionnez, qui est un contexte de popularisation, pourrait-on dire, de l'histoire, et avec la volonté aussi de laisser du plaisir au lecteur, plaisir à l'œil et à l'esprit du lecteur. Donc c'était une sorte de mélange qui faisait l'originalité, pourrait-on dire, de ce numéro 1 de l'Histoire et de ce magazine tel qu'il était conçu par vous.
Oui, certainement. La période était faste hein, pour les historiens.
Oui, c'est ce que beaucoup de jeunes historiens appellent l'âge d'or. Ils aimeraient bien la revivre, cette période-là.
Vous savez, les années 70, 80 ont été effectivement une sorte d'âge d'or pour les historiens et pour les éditeurs d'histoire. Il se trouve qu'il s'est passé quelque chose d'important. Ça a été effectivement le fait qu'un bon nombre d'universitaires ont considéré qu'ils devaient dépasser leur milieu, aller au-delà du monde de leurs pairs et collègues et transmettre leur savoir, par conséquent, à un public élargi. Jusqu'alors, il y avait bien des revues d'histoire, mais c'était des revues de petite histoire, pourrait-on dire, où l'anecdote triomphait. Les universitaires, eux, étaient retranchés dans leur forteresse universitaire, précisément.
De revues universitaires.
Alors, justement, il y a eu quelques historiens. Je crois qu'il faut citer un nom avant tout, c'est celui de Georges Duby. Georges Duby, qui, par ses qualités de style, par ses qualités pédagogiques, a fait vraiment sortir l'histoire de la forteresse universitaire.
Alors justement, puisque vous citez son nom, j'ai préparé un petit bobino, comme on dit en radio. C'était en 1978 sur France Culture, dans une émission qui s'appelait « Aujourd'hui, l'historien », interrogé par Raymond Bélourd et Philippe Venot. Eh bien, Georges Duby disait ceci.
À l'intérieur de l'institution universitaire, je suis persuadé que l'histoire, qui à un certain moment a eu l'impression d'être un peu à la traîne des autres sciences humaines, reprend, si vous voulez, la confiance en elle-même, et je pense que l'historien peut apporter une collaboration décisive aux autres disciplines, à l'anthropologie ou à la sociologie. En ce qui concerne alors, si vous voulez, cette inflation du goût historique, je suis l'un de ceux qui pensent que notre devoir est de mettre à la disposition de l'auditoire le plus large ce que nous découvrons. Je pense que nous devons, n'est-ce pas, nous adresser à un public plus étendu que celui de nos amphithéâtres. Et qu'il faut absolument que l'historien collabore, si vous voulez, à cette tâche essentielle qui est d'entretenir dans notre société l'esprit critique.
Georges Duby en 1978 sur France Culture et dans le numéro 1 de l'Histoire en mai 1978, Georges Duby à la page 6 écrit ceci.
S'il s'interroge sur la condition féminine, l'historien du haut Moyen-Âge se sent très démuni. Il l'est moins lorsqu'il parvient au XIIe siècle. L'obscurité, en effet, commence à se dissiper un peu, on écrit davantage, on conserve mieux les textes. Parmi ceux-ci apparaissent et se multiplient les débris d'une littérature profane, livrant de la vie quelques images déformées, certes, puisque cette littérature est d'évasion, mais dont les rapports restent étroits avec ce qui fut effectivement vécu. Le fait est, en tout cas, que ces écrits parlent de plus en plus des femmes. Comptent-elles davantage? C'est ce qu'il semble si l'on considère les représentations du christianisme. On y voit s'avancer, pas à pas, sur le devant de la scène, des figures féminines qui ne sont pas seulement l'allégorie des vices. La Madeleine conquiert alors dans la dévotion de vastes provinces, tandis que sur le grand théâtre dressé au porche des cathédrales, la figure de la Vierge prend à la fois de la féminité et de l'autorité, jusqu'à s'établir dans une stature égale à celle de Jésus et sur un trône semblable au sien dans l'iconographie des couronnements.
C'est le début, donc, lu par Sophie Doll, de cet article qui s'intitule « La femme, l'amour et le chevalier » de Georges Duby. C'était important d'avoir dans le premier numéro de l'Histoire un article de Georges Duby, Michel Vinocq.
Certainement. Mon désir était de montrer d'emblée deux choses. Que à cette revue participeraient les historiens les plus réputés. Et deuxièmement, le pluralisme de ces historiens. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait tout de même
des chapelles,
des écoles, des réseaux, et que d'emblée, nous avons voulu être pluralistes.
Oui, et pourtant, on a toujours, ou à l'époque, on disait, mais c'est une revue issue de Sciences Po, c'est comme ça que c'était vu. Alors que, effectivement, quand on lit ce qu'on lit, ça n'est pas tout à fait la chose.
Et je vous interromps. Pour vous dire que d'autres pensaient que nous étions, au départ donc, la revue des annales. C'est-à-dire qu'il y avait une représentation tellement plurielle que les uns penchaient vers l'idée que c'était la revue de Sciences Po et les autres que c'était la revue de la Nouvelle Histoire.
Oui, parce qu'on y trouvait effectivement les signatures d'un côté de René Raymond et de Jean-Noël Jeannet, ça c'est plutôt sur Pau, et de l'autre côté effectivement de Nicole Belmont, ethnologue qui parlait du mois de mai en l'occurrence, et de la question de la condition des jeunes filles au mois de mai, donc dans les sociétés traditionnelles et en particulier en France.
Et n'oublions pas Philippe Ariès.
Ouais, Philippe Ariès et Philippe Joutard. Yann Potin, vous avez lu ce numéro 1 que vous n'avez pas lu à l'époque.
Ah non.
Vous êtes trop jeune pour l'avoir lu à l'époque, en l'occurrence, mais néanmoins, vous l'avez lu, et vous l'avez lu avec votre regard d'historien et d'historiographe. Qu'est-ce que vous avez trouvé, justement, de cet équilibre, cette variété, justement, qui était le principe de base affirmé dans l'éditorial que nous a lu Sophie Dole tout à l'heure?
Vous parliez de manifeste, je crois que c'est tout à fait le cas, puisque même avec peut-être un effet même... peut-être un peu surligné, ne serait-ce que la présence de la préhistoire qui est extraordinairement forte dans ce premier numéro par deux articles, dont un qui fait presque 10 pages, de José Garanger, les premiers Australiens, qui est dans la lignée de Leroy Gourhan, et ça fait d'autant plus plaisir que cette présence est maintenue jusqu'à aujourd'hui, ou s'est retrouvée, avec Anne Lerf ou Boris Valentin, par exemple, qui d'ailleurs occupe à peu près la position équivalente à José Garanger aujourd'hui. Quelque chose qui est effectivement, qui correspond finalement à l'éditorial qu'on a lu tout à l'heure, de la préhistoire, du paléolithique au monde contemporain, une forte présence des femmes, et ça c'est très intéressant, enfin de l'histoire des femmes, je veux dire.
Oui, l'histoire des femmes, parce que dans le sommaire tout de même...
Dans le sommaire, c'est pas évident.
On peut dire par exemple que mais... Judith Blanchon... Et on peut le révéler à nos auditeurs. Judith Blanchon est à cette table, et c'est Michel Vinox, notre pseudonyme.
Oui, effectivement, parce qu'il y avait effectivement un déséquilibre. Hein, y avait un déséquilibre, mais ça répondait, ça reflétait tout à fait l'état de l'université, n'oublions pas.
Sûrement.
Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans la même situation. Les femmes ont conquis leur place à l'université. En 1977-78, on les comptait sur les mains, si je puis dire.
Voilà. Oui, c'est certain.
Donc, Yann Potin.
Et puis aussi l'ouverture à une histoire donc ouverte aux autres disciplines. Je parlais de l'archéologie, mais bien entendu l'ethnologie. Donc ça veut dire que c'est pas simplement une coïncidence de date, puisque 1978 c'est l'année de la parution de la Nouvelle Histoire. C'est pas simplement finalement le fruit d'une décennie glorieuse que vous avez évoquée. Pensons quand même que depuis 1969 existe l'univers historique au Seuil, ou depuis 1971 la bibliothèque des histoires chez Gallimard, créée par Pierre Nora. Donc, il y a eu là une sorte de conjonction finalement qu'on retrouve et c'est assez fantastique puisqu'on a à la fois un échantillon de ce qui se fait en 1978 et presque un laboratoire de ce qui se fera dans la décennie suivante.
Oui, et donc on a effectivement une sorte de coupe, comme une coupe stratigraphique de ce qui se dit en 1978. On parle beaucoup, on est encore dans la foulée de ce qu'on appelait l'histoire des mentalités. Donc,
tout à fait.
La place laissée au folklore, la place laissée à l'histoire des traditions populaires, par exemple. Ça, c'est l'article de Nicole Belmont. Et puis, une attention portée à des nouvelles sources de savoir. Par exemple, cette nouvelle source de savoir, c'est la gastronomie historique. On nous lit un petit extrait du premier article signé Platine dans le numéro 1 de l'Histoire. Sophie Dole.
La gourmandise est un vilain péché, à l'égal de la luxure. Parmi les damnés que l'on va admirer au porche des cathédrales, il en est qui ont le diable au ventre, un masque démoniaque qui grimace ou ricane à hauteur de l'estomac, comme d'autres l'ont au bas ventre. Néanmoins, ce sont les organes sexuels et non les organes digestifs qu'on appelait parties honteuses. Et c'est aux femmes que les ecclésiastiques devaient faire vœu de renoncer, non pas au boire et au manger. Sur les 10 livres que Battista Platina, bibliothécaire du pape Sixte IV, a consacrés à l'honnête volupté, ne nous étonnons donc pas qu'aucun ne concerne celle que prodigue Vénus et que 9, au contraire, traitent des plaisirs de la table.
Voilà donc pour ce premier article de gastronomie historique. C'était une nouveauté aussi d'avoir un article de
tout
gastronomie
alors,
historique, Michel Vinox.
Ce n'était pas mon idée, c'était l'idée de Jean-Louis Flandrin.
Moi, je vais présenter Jean-Louis Flandrin.
Alors, Jean-Louis Flandrin, je le connaissais parce que nous étions collègues à l'université de Vincennes. Et il s'était révélé comme un grand historien, pionnier, notamment de l'histoire de la sexualité. Mmh. Et c'est à ce titre, il avait écrit un livre remarquable qui s'appelait « Les amours paysannes ». Il avait écrit d'autres ouvrages sur le thème. Et je lui avais proposé de collaborer à la revue de ce point de vue. Il me dit « Bon, mais attends, moi j'ai autre chose à dire et à faire. C'est aussi l'histoire de l'alimentation et... de la gastronomie. » Et c'est ainsi qu'il m'a proposé de faire une chronique régulière sous le pseudonyme de Platine.
Oui, et il explique d'ailleurs ce Platine, qui était Platine, Battista Platina, de son vrai nom Barthélemy des Sacchi, né en 1421 près de Crémone. Il se permet dans ces deux pages de ce numéro 1 de la Revue d'Histoire, les pages 106 et 107, de donner une recette.
Jus ou potage de courge. Tu cuiras la courge découpée dans du jus ou de l'eau, avec un peu d'oignon, et puis la feras passer par une cuillère percée dans ton pot où y est bon jus gras. Lorsqu'elle aura un peu bouilli, tu l'ôteras du feu, et quand elle sera quelque peu refroidie, tu y ajouteras deux jaunes d'œufs battus ensemble et un peu de fromage vieux gratusé, et tu remueras souvent ta potée. Finalement, lorsque tu l'auras versée dans les écuelles, tu mettras par-dessus des épices.
Bonjour Patrick Rambourg.
Bonjour.
Alors, ce n'est pas vous qui avez signé cet article, puisque malheureusement Jean-Louis Flandrin est décédé, mais vous êtes un de ses élèves, historien de la gastronomie, mm-hmm. historien de l'alimentation. On parlait de vous d'ailleurs récemment dans la Fabrique de l'Histoire, en se trompant, puisqu'on recevait Gilles Galasso, qui est un spécialiste de la découpe des viandes, qui est meilleur ouvrier de France, et qui disait que c'était votre ami Bruno Loriot qui lui avait conseillé de devenir aussi une sorte d'historien de cette tradition de la découpe des viandes, et c'était vous, Patrick Rambourg, qui lui aviez conseillé d'allier sa pratique de cuisinier ou de maître d'office et également cette histoire qu'il pouvait faire de son propre métier. Vous êtes historien de l'alimentation et vous avez été cet étudiant de Jean-Louis Flandrin qui écoutait de façon tout à fait attentionnée ce que disait Jean-Louis Flandrin sur la cuisine et son histoire.
Oui, et je pourrais dire que j'ai commencé par la cuisine avant de devenir historien, puisque mes parents étaient restaurateurs et que j'étais le premier de trois enfants et que je devais prendre normalement la succession. Donc j'ai un CAP de cuisine, un CAP de cuisine classique. Et c'est ce qui plaisait beaucoup à Jean-Louis Flandrin quand je suis arrivé à son séminaire et que je lui expliquais cela. Au moment où je préparais une maîtrise sur le banquet annuel de la confrérie Saint-Jacques aux Pèlerins, Et voilà. Et il était très très intéressé parce que je pouvais avoir un regard à la fois de praticien. À ce moment-là, je travaillais encore dans les cuisines. Je me finançais moi-même en fait. Mmh. Et puis, en lisant les recettes ou en lisant les textes littéraires, voire les textes réglementaires et autres concernant l'alimentation et la cuisine, je pouvais tout à fait assez facilement comprendre les mots techniques qui étaient utilisés à ces époques. Et on voit bien avec l'exemple qui a été donné. Concernant le premier texte de Jean-Louis Flandrin dans la revue L'Histoire, mmh. Donc dans sa chronique, il met en avant les recettes, et c'est ça, et c'est une grande nouveauté, parce que grâce à Jean-Louis Flandrin, il a, fait comprendre que les recettes de cuisine étaient une source comme les autres textes, alors que pendant très très longtemps, ces recettes de cuisine ont été mises de côté, voire elles ont été totalement incomprises, notamment par les érudits du 19e siècle qui, en lisant certaines recettes, notamment les recettes du Moyen-Âge, n'avaient pas compris l'importance de ces épices qui étaient utilisées en grande quantité dans les recettes, et ils voyaient plutôt quelque chose qui... soi-disant cacher le goût des viandes avariées, ce qui était totalement faux. On avait mal interprété le document, en fait.
Mais il faut dire aussi que Jean-Louis Flandrin avait une pratique professionnelle, de professeur très particulière, parce qu'il faisait tester à ses étudiants les recettes, en l'occurrence, qu'il retrouvait dans le viandier. Et d'une certaine façon, on pouvait essayer de voir en cours ce que cela donnait.
Oui, mais il y avait un rituel à la fin de son séminaire. Le séminaire Le Désir et le Goût qu'il tenait à l'école des hautes études en sciences sociales. Chaque année universitaire se terminait par un banquet historique. Et au cours de l'année, il choisissait un thème, du moins il nous proposait un thème, et on commençait à travailler très très tôt, plusieurs mois à l'avance. Déjà, il fallait choisir les recettes, il fallait choisir, après, considérer telle ou telle personne pour faire telle ou telle recette. Alors, et puis, le jour de la dégustation, on se retrouvait avec 30 ou 40 plats. Alors, il y avait ceux qui avaient déjà une petite expérience et qui faisaient une très bonne cuisine, et puis il y avait les autres. On n'avait pas une habitude de la cuisine. Alors, on faisait un effort de goûter. Et en même temps, on faisait une gastronomie historique. C'est-à-dire qu'il fallait bien comprendre que faire un banquet andalou du XIIIe siècle avec nos goûts d'aujourd'hui, forcément, il y avait une attente différente.
Valérie Hanin, vous êtes la directrice de la rédaction de l'Histoire aujourd'hui. Quand vous voyez ces tentatives, justement, ces expérimentations, pourrait-on dire, de Jean-Louis Flandrin, vous en dites quoi ?
Ah, j'ai un souvenir tout à fait ému et admiratif de Jean-Louis Flandrin, mais ce que je voudrais dire, c'est que si sa chronique s'est arrêtée au bout d'une quarantaine de numéros, mais elle a été souvent reprise, hein, c'est devenu une sorte de texte culte, il a fait des émules et jusque dans la revue, puisque Patrick Rambourg, que nous recevons aujourd'hui, a écrit dans l'Histoire, c'était en 1999, oui. Amené par Jean-Louis Flandrin, car c'est ainsi que l'Histoire s'alimente, si je puis dire, un article remarqué et d'un bon souvenir qui s'appelle « Du sang dans la sauce » et qui était consacré à l'histoire du civet de Lièvre.
Oui, c'est-à-dire que c'était mon premier ouvrage, une monographie en fait sur une des plus anciennes recettes de la cuisine française, le civet lièvre. Et une année, Jean-Luc Flandrin nous avait demandé à certains d'entre nous de travailler sur les plats mythiques. Et donc certains, lui, avaient travaillé sur la blanquette de veau. Moi, j'avais choisi le civet lièvre. D'autres avaient choisi la poule au pot. D'autres avaient choisi le pot-au-feu. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a pu montrer, en fait, quelque part, que travailler sur une recette de cuisine, et notamment sur le long temps, car c'est important. Jean-Louis travaille beaucoup sur la longue durée, c'est ce que je fais aussi. Et sur la longue durée, on voit bien qu'une recette qui peut avoir une appellation, le civet lièvre dès le Moyen-Âge, aujourd'hui on appelle toujours ce plat le civet lièvre, mais derrière c'est intitulé « Quelle évolution ?». Le civet lièvre du Moyen-Âge et le civet lièvre d'aujourd'hui n'ont rien à voir.
Ah oui.
Et derrière, on y voit, bien sûr, derrière, on y voit toute l'évolution culinaire, toute l'évolution des goûts et toute l'évolution des pratiques culinaires. Et ça, c'est important.
Yann Potin.
Oui, ce que je trouve passionnant, c'est que justement dans ce que vous venez de dire à propos des recettes, c'est cette attention aux documents. D'ailleurs, il y avait une rubrique documents, en l'occurrence dans le premier numéro, c'est Alfred Soman qui signe un article sur un procès pour homicide d'une sorcière. Donc on est là aussi justement dans une préhistoire de l'histoire des femmes encore michelétienne, pourrait-on dire, où la femme est forcément avant tout un objet de représentation et pas encore tout à fait un objet tout à fait concret. Mais il y a aussi une autre rubrique, dans le premier numéro, les demeures de Clio, donc une attente qui s'intéresse aux lieux et aux des sources de l'histoire. Ce premier numéro s'ouvrait avec un article de Jean Rollin qui en fait va faire une sorte d'enquête pendant les premiers numéros de l'histoire sur différents lieux d'archives, des très beaux articles d'ailleurs entre parenthèses.
Jean Rollin qui est devenu un très bon romancier.
Voilà, c'est ça, qui à l'époque, je l'imagine, n'était pas encore tout à fait celui qu'on a connu depuis. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ça illustre, ou disons ça incarne, l'histoire d'abord dans des documents, là en l'occurrence on parlait des recettes, mais aussi un lieu ou un terrain commun pour ces écoles, même si j'aime pas trop ce terme, en tout cas ces identités contradictoires qui se retrouvent quand même sur le terrain des archives et dans ces demeures de Clio, puisque c'est donc finalement dans les salles de lecture des bibliothèques et des archives que ces historiens d'écoles différentes doivent se côtoyer, historiens et historiennes, bien sûr.
Michel Vinocq, ce qui est intéressant, effectivement, c'est à la fois, ce sont les grands articles, et on l'a dit, des 10 pages pour José Garanger sur les premiers Australiens, mais aussi ces rubriques qui vont revenir régulièrement, que vous aviez pensé comme étant une façon peut-être aussi d'intéresser des lecteurs qui ne viendraient pas naturellement aux grands articles de Georges Duby ou de René Raymond ou Philippe Ariès.
Certainement, mais c'était aussi pour assurer une continuité. J'avais un peu l'habitude des revues, notamment j'avais dans ma jeunesse participé à la revue Esprit. Et chaque revue, une bonne revue est structurée par des parties, par des rubriques, et il me semblait important, par conséquent, qu'il y ait dans l'histoire, régulièrement, un rendez-vous. Alors, les rubriques, ça a été effectivement les demeures de Clio. Stéphane Kémis, qui était mon adjoint, en quelque sorte, a eu l'idée du voyage dans le temps. Et dès ce premier numéro, nous avions un article de Philippe Joutard sur la Cévenne camisarde. Il y avait l'almanach, c'est-à-dire là, nous entrions dans l'histoire traditionnelle de
la longue durée.
Chaque mois, avait un sens, une signification historique, etc.
C'était la fameuse Judith Blanchot qui avait écrit cet article sur la communion solennelle. Michel Binot.
Et j'ajoute que dans la précipitation, il fallait trouver de la documentation et j'ai pris des photos familiales, une pour de mes sœurs aînées en communiante, n'est-ce pas, et une photo de famille pour la communion solennelle d'un de mes frères.
Ah bah quand on écrira, un thésard écrira une thèse sur l'histoire, effectivement, il découvrira qu'il y a derrière ces articles qui peuvent paraître des articles anodins, à la fois à pseudonyme, mais aussi des archives familiales. Valérie Hanin.
Je voudrais dire qu'on peut trouver ce numéro 1 dont vous parlez tous si bien en ligne sur l'histoire.fr, avec peut-être même les photos de famille de Michel Vigneron.
Ouais, sûrement avec.
Et de Judith Blanchot.
Et puisque vous évoquiez cette rubrique Le voyage dans le temps, donc, qui avait été pensée par Stéphane Kémis, qui était à vos côtés, Michel Vigneron, à ce moment-là, eh bien, on en écoute un extrait lu par Sophie Doll.
Jusqu'à présent, nous n'avons emprunté que des routes goudronnées. Mais la meilleure manière de connaître le pays camisard est encore de faire comme ces rudes combattants, ou comme il y a juste un siècle, l'écrivain écossais Stevenson à la recherche des puritains français. Marcher, et toujours marcher. De nombreux sentiers ont été balisés. Le trajet le plus suggestif est le suivant. Au départ d'Anduze, le GR61 nous conduit au Mas Soubéran, Mialet, Saint-Jean-du-Gard, et monte ensuite au col de Mercou, et au col de l'Asclier, où il rejoint le GR6. Celui-ci emprunte la plus ancienne voie de communication, la draille de la Margeride, vers Bonperrier, le col du Pas et Aire de Côte. À Aire de Côte, on abandonne le GR6 pour le GR7, qui nous permet de gagner le Salidès, le Marquerès, le camp de l'Hospitalet, Barre des Cévennes et le plan de Formont. Peu après le plan de Formont, on rencontre le sentier Stevenson qui vient juste d'être balisé et qui suit le trajet effectué par le célèbre écrivain écossais depuis le monastier sur Gazeille en Haute-Loire, le prendre pour revenir à Saint-Jean-du-Gard par Saint-Germain-de-Calbert et le col de Saint-Pierre. Bien entendu, cet itinéraire peut être emprunté par morceaux au départ de divers villages cévenols.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Voilà, on vient de lire un petit extrait de cet article Le Voyage dans le Temps. C'est page 59 de ce numéro 1 de l'histoire, qui est une sorte de guide de voyage, on pourrait dire, voilà. Guide de voyage à pied.
Mais fait par le meilleur spécialiste de l'histoire et de la mémoire des camisards à l'époque. Puisque en soi, Philippe Joutard, l'année précédente, vient de publier en Bibliothèque des Histoires La Légende des Camisards. Donc c'est
issu de sa thèse.
C'est-à-dire qu'en fait, ça résume, ça précipite en quelque sorte cette idée d'apporter sous une forme finalement d'histoire publique, c'est ce qu'on appellerait ça aujourd'hui, quelque chose de très, 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 très concret. En l'occurrence, on pourrait aussi retrouver des échos dans les travaux d'Antoine Debecq, par exemple, aujourd'hui.
Ouais, sur la marche.
Sur la marche. Mais en fait, c'est aussi un travail extrêmement sérieux de 16e-istes et d'historien de la mémoire du protestantisme.
Oui, Michel Vinocq, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on ne s'attend pas à trouver dans une revue, certes, qui a pour prétention d'être une revue grand public, l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le guide du routard de ce moment-là, c'est-à-dire à vous dire, voilà, pour aller à gauche, prenez à droite, passez par ce village, etc., pour suivre les pas de Stevenson, alors qu'aujourd'hui, ces chemins qui sont décrits par l'article de Philippe Joutard, qu'on salue et qui est encore membre du comité éditorial de l'histoire aujourd'hui.
Actif, très actif.
Que ces chemins qui sont parcourus par Philippe Joutard sont parcourus par des milliers de personnes tous les étés dans les pas de Stevenson.
Oui, bien sûr. L'idée de guide, comme vous dites, elle concernait aussi les demeures de Clio, n'est-ce pas? Puisque nous prenions par la main les amateurs d'histoire, ceux qui ne connaissaient pas encore ces lieux où l'histoire se faisait réellement. Donc nous avons passé en revue non seulement la Bibliothèque nationale, mais les archives naturellement, l'École normale supérieure, enfin, etc. Oui, il y a cette intention, toujours, n'est-ce pas, que j'avais à l'esprit, qu'il fallait communiquer, diffuser, transmettre, et par conséquent, cela impliquait aussi une écriture, nous n'en avons pas parlé, parce que les universitaires en général, comme tous les spécialistes, ont leur langage, parfois leur jargon, or il fallait absolument que leurs travaux, leurs découvertes, passe au plus, comme le disait Georges Duby tout à l'heure, aux yeux du plus grand nombre.
Attendez, mais c'était facile de faire réécrire Georges Duby? Ou de faire réécrire Philippe Ariès?
Je peux vous dire que pour Georges Duby, il n'y avait aucun problème, parce que il était un écrivain.
Mais je ne cite pas de nom, mais c'était facile de faire écrire un grand professeur au Collège de France, à la Sorbonne.
Au départ, nous avons eu quelques petites réserves, mais pas beaucoup. Car dans l'ensemble, une fois que nous avions collaborer, parce qu'il ne s'agissait pas de faire du re-acting, comme on dit, mais bel et bien de présenter à notre auteur des corrections qu'il pouvait accepter. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui, et je ne crois pas, d'ailleurs, Valérie Hénin, qui est ici, pourrait le dire. Sur ce terrain-là, entre les auteurs et la revue.
Valérie Hénin, vous qui connaissez maintenant cette revue depuis, non pas le numéro 1, mais presque. Et qui en est la directrice de la publication, justement, de la rédaction. Qu'est-ce que vous en dites, justement, de ce travail collaboratif de la réécriture par des gens qui travaillent autour de vous, toute l'équipe qui est autour de vous, la réécriture des articles qui sont proposés par les historiens ou les historiennes?
C'est une grande ambition, et c'est toujours la même. C'est celle que Michel Vinocq écrivait dans l'éditorial du numéro 1 que vous nous aviez lu tout à l'heure. Évidemment, il faut que l'histoire soit bien écrite, le mieux écrite possible, la plus plaisante possible. Alors, certains historiens sont de vrais écrivains. On a quand même en France une belle tradition depuis Michelet au Collège de France. Mais certains acceptent de bonne grâce, de travailler, de faire une écriture journalistique, de s'adresser au plus grand nombre, de raconter, de faire de la pédagogie.
On met des chapeaux, on met des inters, et pour
pouvoir
faciliter
la lecture. On fait des cartes, on fait de l'infographie, on utilise beaucoup l'iconographie, et évidemment ça c'est très important. Et je dois dire que tout se termine en général dans le plus grand plaisir.
Alors il y a tout de même une rubrique qui manque, enfin. Objectivement, elle n'est pas là. C'est la rubrique actualité qui existe dans tous les magazines d'histoire. Mais il y a beaucoup d'articles d'actualité, mais elle n'est pas définie comme une rubrique.
Pas encore,
Michel Vinocq.
Mais enfin, vous voyez que tout à l'heure, n'est-ce pas, Yann Plantin parlait de la préhistoire, si présente dans ce numéro 1. Mais remarquons que l'histoire, comme on dit, immédiate, ou l'histoire du temps présent s'y trouve.
Le Cambodge interdit par Jean Lacouture, par exemple.
Oui,
sur la question des...
Absolument.
La guerre des gauches.
Vous avez aussi la guerre des gauches, les
signé
élections.
Signé par un certain Christophe Calmy.
Oui, on l'a un peu perdu de vue,
ouais,
celui-là.
Ce ne serait pas Michel Vinocq qui aurait trouvé un deuxième pseudonyme par hasard.
On le cherche.
Donc, vous voyez, nous parlions quand même d'événements politiques qui venaient d'avoir lieu. Les élections avaient eu lieu en 77, les élections présidentielles, l'élection présidentielle aurait lieu en 81, nous paraissions en 78, et je vais faire cet article sur la guerre des gauches depuis 1945 pour montrer, avec une iconographie, avec une infographie à l'appui, comment le Parti socialiste avait peu à peu remonté et dépassé le Parti communiste dans l'histoire électorale.
Yann Potin ?
Oui, et puis cette actualité, elle est aussi, même si c'est sur une forme peut-être un peu plus attendue, sur les rendez-vous commémoratifs qu'il s'agit d'interroger, de critiquer. Il y a évidemment, on n'en a pas encore parlé, l'article de René Raymond. Je dis l'article de René Raymond parce que là, pour le coup, il faut rendre, si j'ose dire, un petit peu à la tradition de Sciences Po sa présence dans le numéro 1. L'article sur le 13 mai 58, donc là on est vraiment mai 78, mai 58. Mais il y a également un article sur le centenaire de Voltaire, 1870. Donc c'est une autre façon, par Bernard Marais, une autre façon de parler de l'actualité. Mais on voit bien qu'elle est quand même partout présente, en quelque sorte, y compris avant tout par l'actualité de la recherche. Et c'est pour ça que je peux vous dire que, par exemple, Hélène Roche, son article sur les premiers outils humains, est tout à fait dans l'actualité parce que c'est des découvertes qui viennent d'être faites.
Alors, il y a effectivement un air du temps, pourrait-on dire, pour ce premier numéro de l'histoire en 1978. En 1979, une grande pétition, une grande plainte montra du côté des historiens sur le fait qu'on n'apprend plus l'histoire à nos enfants. Et dans ce numéro 1 de 1978, eh bien, on a un article qui est signé Hélène Cassagne, qui prend en brassée, pourrait-on dire, 4 ou 5 livres d'histoire pour les enfants. Un extrait tout de suite.
Raconter la France à des enfants auxquels la République n'apprend plus guère que leurs ancêtres s'appelaient les Gaulois n'est pas tâche facile. Il est séduisant, plus rentable aussi pour éditeurs et auteurs de décrire les Égyptiens, les Vikings ou l'homme de Néandertal. 5 historiens, pourtant, viennent de tenter courageusement l'aventure. Expliquer à des jeunes, noyés dans les flashs audiovisuels, abreuvés d'informations historiques ponctuelles, le lent cheminement qui leur permettra peut-être de se situer. Tel est bien le but affirmé dans les divers livres. 2000 ans d'histoire de France, histoire d'une nation, la véritable histoire des Français, histoire de France, France, Français, nation. L'essentiel du débat est si bien résumé dans les titres qu'on craint un peu d'ouvrir les volumes. Car les difficultés d'un tel projet sont évidentes. La matière d'abord. Que d'événements accumulés. Un choix s'impose, certes, mais lequel, si l'on veut garder son sens à la continuité. En outre, s'il est relativement aisé de raconter les rivalités successives qui ont opposé la France à ses voisins, la volonté absolutiste d'un Richelieu ou d'un Louis XIV, notre histoire récente fait problème. Comment expliquer le Front populaire sans faire un détour par Hitler ou Staline ? Comment rendre accessibles et attrayants les problèmes qu'auront à se résoudre nos deux dernières républiques ? Par ailleurs, l'histoire événementielle ne suffit plus. Raconter leur histoire aux jeunes Français passe par une description vivante des ancêtres, par une explication de leur sens de la durée, de l'espace, de la société, par cette fraternité qui transperce le temps et permet de partager leur espérance, c'est-à-dire leur vie. Sur ces thèmes, de savants travaux se sont accumulés. Mais leurs résultats peuvent-ils être rendus accessibles aux jeunes lecteurs ?
Voilà un extrait de ce numéro 1, on est à la page 94, numéro 1 du magazine L'Histoire de mai 1978, un compte rendu par Hélène Cassagne d'Une France aux couleurs de l'enfance, c'est le titre de cet article qui prend donc embrasser 4 ou 5 livres d'Histoire de France pour les enfants. Quand on sait combien cette question de l'Histoire de France a été récurrente depuis 40 ans, on vous en parlait d'ailleurs dans le numéro des 40 ans de l'Histoire, Valérie Hanin, c'est intéressant de voir que pour ce numéro 1, il y avait déjà cette idée un peu nostalgique, on ne parle plus assez d'histoire de France, mais aussi il faudrait en parler différemment, en parler en donnant le sens de la durée, de l'espace, de la société, de la fraternité qui traverse le temps et qui permet de partager l'espérance de ceux qui ont vécu avant nous, c'est-à-dire la vie.
Oui, Emmanuel, c'est une querelle qui décidément est bien récurrente. Nous avons tenu à ouvrir le numéro des 40 ans par cette affaire qui apparaît comme un marronnier, mais Philippe Joutard, encore lui, qui décidément est un de nos auteurs très fidèles et que nous chérissons tous, eh bien, ouvre ce numéro en racontant qu'en 79, on déplorait déjà qu'on ne fait plus d'histoire, et notamment plus d'histoire de France. Mais il rappelle judicieusement que la droite, notamment, qui aujourd'hui le déplore tant, avait été la première à abandonner l'histoire comme une discipline complètement secondaire. Alors la querelle, on le sait, a rebondi plusieurs fois depuis lors, avec la querelle sous Sarkozy de l'identité nationale, de la maison d'histoire de France, et plus récemment avec la méchante querelle autour de l'histoire mondiale de la France, qui n'est qu'un épisode qu'on espère on pourra dépasser bientôt.
D'un nouveau feuilleton, pourrait-on dire, c'est un véritable feuilleton. Vous avez connu toutes ces querelles depuis le début, Michel Vinocq. Est-ce qu'on apprend l'histoire de France ? Comment l'apprend-on ? Faut-il l'apprendre en même temps qu'apprendre d'autres histoires ?
Du reste, nous avons fait, à la suite de cet article d'Hélène Cassagne, nous avons fait régulièrement des articles sur les manuels scolaires. Comment on enseigne l'histoire ?
C'était le travail de Marc Ferraud d'ailleurs dans ces mêmes années. Comment c'était l'histoire
aux enfants ?
Oui, alors
en l'occurrence, il y avait Philippe Joutard dont nous parlions, s'est beaucoup intéressé évidemment à la question. Et tout de suite, nous avons, en faisant l'histoire, voulu faire une histoire, je ne dirais pas mondiale, ça serait trop ambitieux, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, d'ouvrir les portes et les frontières. Et nous parlons là de l'Australie, vous voyez dans ce numéro, de bien d'autres lieux qui ne sont pas strictement hexagonaux. Dans cette querelle permanente, nous avons pris parti assez régulièrement Notamment à propos de la dernière querelle s'agissant de l'histoire mondiale de la France. Bon, il se trouve que ce sont quelques-uns des nôtres, n'est-ce pas, qui ont pris la direction de cette entreprise.
Et
peut-être que Yann pourrait nous en dire un mot.
Non, je faisais quand même avant tout Patrick Boucheron, qui est évidemment, et membre du comité de la rédaction de l'histoire avant tout, qui est dans cette l'inspirateur de cette de ce projet éditorial qui, en effet, il faut le dire, et ça a toujours été d'ailleurs, je crois, assumé, y compris sur le papier, est à la fois un hommage et un prolongement de la revue, tant d'ailleurs dans le format des articles, hein, puisque les articles finalement de l'histoire mondiale de la France, 10-12 000 signes, sont ceux qui finalement se sont stabilisés dans la revue, puisque en fait on voit que dans le premier numéro il y a encore des articles quand même à 40 000 signes, je vous le dis tout de suite, ça n'existe plus, hein, voilà. Mais pour l'histoire mondiale de la France, en effet, au fond, peut-être c'était une façon de prolonger le travail de l'histoire et de rendre surtout, et c'est peut-être ça qui a été le plus mal compris, et je crois que si on reprend les paroles de Patrick Boucheron dans l'introduction, de rendre surtout hommage et donner la réplique à la phrase que vous avez citée tout à l'heure de l'éditorial, le vrai savoir se refuse à ennuyer. Voilà, ça c'est une phrase qui est quand même fondamentale, et finalement, c'est cette idée que l'histoire doit non seulement être pas trop mal écrite, entraînante, joyeuse et expérimentale, et je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire, et ce que la revue ne cesse finalement, mois après mois, de faire.
Alors, puisque on évoque les querelles qui ont pu traverser le milieu des historiens, vous en avez connu quelques-unes, Valérie Hanin,
J'en ai connu quelques-unes, et qui parfois ont été violentes. Alors, je les suivais au début d'un peu loin, et avec un certain étonnement, mais enfin, on a pu voir quand même qu'elles étaient violentes, les querelles sur le bicentenaire évidemment de la Révolution, celle sur le communisme. Et la revue a toujours été considérée un peu comme une revue de gauche, mais au fond moins à gauche que ses lecteurs, avions-nous l'habitude de dire. Et du coup, plus modérée, plus pluraliste, donnant la parole à la fois à Sauboul, à Vauvel, Michel Vauvel, et évidemment François Furet, Mona Ozouf, qui n'ont cessé d'être là parmi d'autres. Et puis plus récemment, la querelle dans laquelle nous avons vraiment pris part, parce que c'est vital pour nous, la querelle de la mémoire, des lois mémorielles autour de l'histoire de l'esclavage, autour de l'histoire de la relecture de la colonisation et jusqu'à l'histoire de France.
Sans compter les querelles liées à la Première Guerre mondiale, etc.
Sans compter la querelle du consentement, nous avons toujours accompagné ces querelles depuis 40 ans, mais nous les avons accompagnées. Alors je crois que en réfléchissant, on pourrait dire qu'on a à la fois cherché à s'engager dans la querelle, à ne pas cacher nos choix, mais à laisser toujours le débat ouvert.
Oui, et comment fait-on pour pouvoir garder dans un même conseil de rédaction des gens qui sont très opposés dans l'espace public, par exemple, Valérie Hanin, c'est un autre talent. On pourrait le demander à Michel Vinocq, qui l'a été avant vous, mais comment fait-on?
Eh bien, écoutez, on y croit. On croit que finalement, les historiens ont une passion. C'est celle sur laquelle la revue mise depuis 40 ans, qui est celle de transmettre, de débattre, et que finalement, ce goût du débat, quelquefois très violent, mais au fond, le goût du débat et de la transmission finit par l'emporter sur tout.
Michel Villain.
Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que répéter que notre idée est effectivement l'ouverture. Et par conséquent, même si nous penchons d'un côté...
Et tout le monde ne penche pas du même côté.
Mais en plus, dans le comité de rédaction...
Parce que si tout le monde penche d'un même côté dans un bateau, ça finit généralement assez mal.
Ça coule. Vous le dites bien. Vous le dites bien. Donc l'ouverture, donner la parole aux autres, à ceux qui ne sont pas d'accord.
Alors, il y a une discussion, par exemple, avec les décisions publiques qui tournent autour des archives, par exemple, qui sont généralement relayées dans un journal comme L'Aile Histoire, dans un magazine comme L'Aile Histoire. Eh bien là, c'est un article de Pascal Horry, dans le numéro 1 de mai 1978 de L'Histoire, qui parle de la conservation du cinéma.
Chacun sait que l'histoire va en s'accélérant. C'est sans doute en vertu de ce principe incontesté qu'il aura fallu attendre 80 ans pour que la France mette en place la législation et l'institution ad hoc. À compter de 1978, en vertu d'un décret paru au Journal officiel du 27 mai 1977, complété par un protocole en date du 23 novembre, le dépôt légal par des producteurs des films cinématographiques et vidéographiques de 16 et 35 mm est enfin entré en vigueur. Comme il se doit, cette décision capitale est passée inaperçue, alors qu'elle clôt enfin positivement une longue série d'occasions manquées. Tentative d'ennoblissement de 1908, qui vit avec le film d'art d'augustes intellectuels faire cercle autour de l'enfant sauvage pour le transformer à coup d'assassinat du duc de Guise en un art enfin présentable, raté. Effervescence des amateurs de films muets au lendemain de leur disparition des écrans, bientôt retombée. Divers projets de comédie française du cinéma à l'époque de la grande enquête cinématographique de 1936, enterrés. Jean Zay, grand ministre de l'Éducation nationale, n'était pas un cinéphile. Volonté policière du règne de Vichy, signant enfin le 21 juin 1943 une loi qui instituait le dépôt légal des films, mais sans jamais lui donner de décret d'application.
Voilà donc pour cet article du numéro 1 du magazine L'Histoire. C'était en mai 1978. Il est signé Pascal Horry. Il est titré « La cinémathèque sort de la préhistoire ». Yann Potin, ces questions d'archives avec les lois sur les archives, celle de 1979, et puis toutes les autres qui se sont succédées, la querelle de la cité des archives à un moment ou à un autre. Tout cela a été suivi par le magazine L'Histoire parce que effectivement, ce sont les sources de l'historien.
Tout à fait. Et en fait, non seulement dès le premier... pas le premier numéro, mais celui de juillet-octobre, dans la rubrique Les Demeures de Clio, Jean Rollin va interviewer différentes personnes, dont Jean Favier aux Archives Nationales, et donne en primeur, donc là c'est même avant l'actualité, 6 mois avant en fait le vote de la loi sur les archives, cette loi du 3 janvier 79 qui encore aujourd'hui règle, depuis 2008 révisée, mais règle le régime d'ouverture des archives de l'État en France, donc 6 mois avant cette loi, la définition des archives publiques est donnée dans les colonnes de l'Histoire. Et depuis, en fait, on peut quasiment suivre le feuilleton en 88 avec l'arrivée des archives informatiques et des nouveaux instruments, et puis surtout dans les années 2000, plus récemment, le nouveau projet de Pierrefitte-sur-Seine et les grands déménagements des archives.
Mais comment ne pas être le journal officiel de la communauté des historiens, en l'occurrence? C'est difficile, Valériane? L'opinion générale, il y a toujours des marges. Comment réintégrer les marges à l'intérieur de cette vision générale, pourrait-on dire, de ce sens commun de la communauté des historiens?
Ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, ouvrir les yeux et les oreilles.
Le lien avec aussi les praticiens. On a parlé des manuels scolaires, faut quand même pas oublier, je crois que le mot a pas été prononcé, que et le lectorat et une partie des contributeurs sont avant tout des enseignants, surtout les terrains de salles de classe et d'amphithéâtre.
Michel Vinocq.
Oui, moi je défendrais l'idée d'indépendance, parce que dans ce que vous dites, n'est-ce pas, on pourrait croire que nous sommes un journal officiel dépendant d'un ministère. Absolument pas. Nous sommes radicalement indépendants de toute espèce d'institution.
Patrick Rambourg, quand il vous arrive de le lire, et je pense que c'est assez fréquent,
tous les mois,
ce journal et ce magazine, vous qui avez été l'élève de Jean-Louis Flandrin, vous vous dites, tout compte fait, j'y vois encore surgir des choses que je n'imaginais pas dans ce domaine de l'histoire que vous pratiquez depuis maintenant longtemps, c'est-à-dire des nouveautés, des impressions, des choses qui surgissent parce que, eh bien, la liaison est assez directe entre le milieu des universitaires et la publication dans le journal.
Oui, si on reste dans le contexte alimentaire et gastronomique, c'est ça?
Oui.
Oui, ben, on voit bien que la revue L'Histoire régulièrement publie des articles sur les recherches récentes concernant l'alimentation. sur la viande notamment récemment, ou sur bien d'autres approches. Et on se rend bien compte que le sujet gastronomique, culinaire et alimentaire est désormais maintenant bien ancré dans le contexte historique et fait partie aujourd'hui de l'approche historique et de la compréhension des sociétés et notamment des sentiments et des cultures.
Oui, avec toute cette histoire, des émotions qui est aussi en train de monter, des sentiments, l'histoire du sensible telle qu'elle a été plus ou moins pensée par des historiens des années 70, 80 et jusqu'à aujourd'hui, comme Alain Corbin.
Et par Alain Corbin, qui a accompagné la revue fidèlement depuis le début, quasiment, et aujourd'hui qui a beaucoup d'élèves et beaucoup d'émules. Je voudrais dire aussi que vous citiez tout à l'heure et vous disiez Pascal Horry, alors je ne suis pas très sûre que Jean Zen ne s'intéressait pas au cinéma, lui qui a lancé le festival de Cannes, mais enfin, à l'époque, on ne le voyait pas comme ça. En tout cas, Pascal Horry, en effet, signe un article joliment titré « 40 ans de collaboration ». Il explique dans notre numéro d'aujourd'hui pourquoi il est là depuis 40 ans et comment les collaborateurs cycles l'ont rattrapé. Mais je voudrais dire aussi que à l'autre bout du numéro, accompagnant la conclusion de Patrick Boucheron, on a souhaité donner la parole à une jeune historienne qui est née en même temps que l'histoire, Anaïs Fléchet, qui est née en 1978 et qui, au fond, nous raconte comment elle a découvert l'histoire. C'est un peu la réponse à la question que vous nous posiez, Emmanuel, c'est-à-dire cette ouverture. Et pourtant, alors, Anaïs Fléchet est une spécialiste de la samba brésilienne, enfin, notamment, entre autres, de la musique et de l'histoire mondiale. Donc, aux deux bouts, il y a évidemment ce renouvellement permanent qui est celui de la vivacité du monde des historiens.
Ça vous amuse? Vous avez toujours ce petit œil qui frise quand vous réfléchissez à ces 40 années, Michel Binocq?
Moi, je crois que nous pouvons nous féliciter de la continuité de notre projet. Il a été réalisé. Aujourd'hui, bien entendu, la revue a bien changé par sa présentation, mais je crois que nous sommes restés fidèles à son projet initial.
Merci beaucoup. On pourra donc voir sur le site de l'Histoire donc le numéro 1 en intégralité de l'Histoire, celui de mai 1978. Et on peut se procurer en kiosque, évidemment, ce numéro des 40 ans qui fait le compte, pourrait-on dire, de 40 ans de controverse, Valériane.
Absolument. Merci Emmanuel.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission et merci à Sophie Doll d'avoir lu les textes ce matin. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marcet, Antoine Pitiloni était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation.